Nara Kéokozal, l'impossible retour au Cambodge.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Nous pouvons améliorer les images du monde et comme ça nous pouvons améliorer le monde. C'est ce que dit le réalisateur Wim Wenders. Je me demande moi ce qu'en pense notre invité Nara Kéokozal, née au Cambodge, d'une mère vietnamienne et d'un père cambodgien, devenu directeur de la photographie, actuellement co-directeur artistique du festival Si Loin Si Proche, première rencontre cinématographique du Cambodge, Laos et Vietnam. C'est à la ferme du Buisson, au sud de Paris, du 24 au 28 janvier. Nara Kéokozal, traversée par le cinéma de Tavernier, le travail mémoriel de Ritipan et l'esthétique d'un Ozu, fait partie de ses rencontres cinématographiques en signant « Au pays des sentinelles éternelles ». Ça, c'est du cinéma qui peut-être lui permet de se rapprocher de son pays si éloigné. Bonjour, Nara Kéokozal.
Bonjour.
Alors, avant de projeter à la sauce en sol majeur votre film, avant d'en parler de ce film, que vous évoque cette citation de Wim Wenders ? Nous pouvons améliorer les images du monde et comme ça, nous pouvons améliorer le monde.
Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase de Wim Wenders, mais je rajouterais en plus de ça que l'art ne doit pas être simplement un moyen pour montrer des choses aux gens, mais aussi un moyen aussi de résistance par rapport au fait qui nous est extérieur, en fait, si on voulait changer le monde. Il y a des films qui peuvent changer le monde.
Par exemple ?
Par exemple, le film d'Alia Kazan, Américain, qui peut changer le monde. Je vois cette image du gamin qui, pour la première fois, qui vient aux États-Unis et qui embrasse le sol des États-Unis, en fait. Cette image-là, elle a eu un effet dans mon enfance en France. Je vous raconte une histoire. Moi, je suis revenu au Cambodge que très tard, parce que je ne voulais pas revenir au Cambodge en touriste, en fait. Donc, je suis revenu au Cambodge pour travailler. Et avant mon départ, ma mère m'a dit, surtout Nara, en fait, ma mère m'appelle par mon prénom vietnamien, Nghia. Elle m'a dit, Nghia, quand tu arrives au Cambodge, la première chose à faire, c'est d'embrasser le sol. Donc, ça me rappelle ces images. En fait, moi, je pense qu'elle n'a jamais vu...
Américain,
il y a 15 ans.
Alors, moi, je rappelle le principe d'un sol majeur, un invité au carrefour de plusieurs identités, venu avec ses musiques, ses archives, pour parler de son lien au sol, c'est-à-dire de la terre, et de son lien aux langues.
En sol majeur, en version originale, non sous-titrée.
Quels sont vos premiers goûts d'enfant ? C'est comment de naître dans une langue et de grandir dans une autre langue ? Quelle est la dernière image, Nara, que vous emportez du Cambodge lorsque vous quittez cette terre natale à l'âge de 8 ans?
Au stade olympique,
Cầu giang đông đinh Merci alors pour cette petite introduction en khmer, Nara Akeokozal. Je vais vous laisser maintenant nous ouvrir les oreilles et peut-être un peu traduire cette berceuse du Sud-Vietnam qu'on est en train d'entendre, grâce à vous d'ailleurs.
En fait, j'ai choisi cette berceuse parce que ça me rappelle mon enfance. Il ne faut pas oublier que je suis né d'un père cambodgien et d'une mère vietnamienne. C'est une berceuse vietnamienne que ma mère chantait. Et c'est une berceuse très triste qui raconte l'histoire d'une femme qui essaie d'endormir son enfant en sachant très bien que son mari est parti voir sa maîtresse. Donc, il y a une très grande tristesse dans cette berceuse, en fait. Mm-hmm.
Voilà. Père cambodgien, mère vietnamienne, ça veut dire que vous avez grandi dans ces deux langues-là ?
Quand on était au Cambodge, tout le monde parlait cambodgien. Et en arrivant en France, la langue maternelle est devenue beaucoup plus importante que la langue paternelle. Moi, je pense que c'est dû aussi du fait que mon père parle très très bien vietnamien, parce qu'il a vécu un grand moment là-bas. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, en fait.
Nara, vous êtes née en 56, donc à Phnom Penh, au Cambodge, mais pour des raisons qu'on va expliquer juste après, vous avez fait donc votre vie en France. Je repose ma question, et comme ça on va avoir la réponse en français cette fois-ci. C'est comment de naître dans une langue et de se construire dans une autre langue ?
Je pense que c'est très difficile, en fait. Avant de partir au Cambodge, je suis dans une primaire où on parle un peu français.
Mais qu'est-ce qui est difficile, alors ?
Ben parce que c'est l'intonation, c'est la conjugation. Vous savez qu'au Cambodge, au Vietnam pareil en fait, il n'y a pas beaucoup de conjugation. On conjugue ni le futur, il n'y a pas de futur, ni le passé simple, ainsi de suite. Quoi.
Oui, vous avez eu souffert avec la conjugaison française. Oui. Aujourd'hui, quand je vous pose des questions en français et que vous avez la gentillesse de me répondre en khmer pour un sol majeur, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous.
Je dois vous dire une vérité. J'ai triché un petit peu. Et en fait, je vous réponds en vietnamien. Parce que je maîtrise beaucoup plus la langue maternelle.
Mais est-ce qu'en vietnamien, vous êtes
je ne suis pas du tout à l'aise. Je l'ai perdu. Et c'est sûr que c'est difficile de perdre une langue, soit maternelle ou paternelle, quoi.
Nous t'acclamons en accueillant ton chef. Il est là parmi nous, ce héros de l'histoire. C'est pour lui qu'en ce jour de liesse et de gloire, notre peuple se presse en cette vaste nef.
Tout le Cambodge est réuni au stade olympique de Phnom Penh. Nous sommes en 1966 et tout le stade est là pour accueillir le fameux général.
Je déclare ici que la France approuve entièrement le Cambodge. Quant à l'effort qu'il déploie pour se tenir en dehors du conflit et qu'elle continuera de lui apporter dans ce but son soutien et son appui. Oui.
Un de Gaulle voulant constituer une alternative aux deux blocs dominants de l'époque, les États-Unis et l'URSS, qui est venu donc soutenir le Cambodge, qui à ce moment-là fait partie des non-alignés. Ça, c'est pour le contexte. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous, personnellement, Nara, dans cette archive qui date de 1966, que vous avez demandé pour un sol majeur ?
Ce qui m'intéresse, c'est que ça se passe dans le stade olympique et qu'à côté du stade olympique, il y a la piscine olympique. Et mon père a participé à la construction de cette piscine olympique. Et dans mes souvenirs aussi, c'est que j'ai pu faire les premiers nages dans cette piscine.
D'accord.
Donc ça reste un moment très fort. Et en plus de ça, c'est juste avant de partir du Cambodge.
Alors pourquoi vous partez à cette date-là ?
À cette date-là, parce que la guerre du Vietnam commençait à pénétrer au Cambodge. Et sur la 17e parallèle, on commençait à subir en fait les bombardements des avions américains. Parce que les Vietcong et les Viet Minh pénètrent dans le sud en passant par le Cambodge. Et il y a une notion très très forte à cette époque, en 65-66, de l'anti-vietnamien au Cambodge. Donc il y a beaucoup de manifestations anti-vietnamien. Il y a beaucoup de tueries aussi. Et mon père a eu peur pour sa femme.
Oui, d'autant que vous êtes issu d'une alliance un peu compliquée, hein, puisque traditionnellement, on sait qu'il y a toujours eu une très grande méfiance entre les Vietnamiens et les Khmers, et vos parents sont un mariage mixte, je ne sais pas comment il faut le dire. Est-ce qu'il y avait des tensions, justement, dans la famille, à cause de ces origines différentes ?
Je pense qu'il y a forcément des tensions, mais étant très jeune, en fait, à ce moment-là. Mais ce que je sais, c'était la première histoire d'amour entre le Cambodge et le Vietnam.
Mais vous avez été élevé dans les deux cultures en même temps.
Je suis élevé dans les deux cultures. Mais très souvent, la culture vietnamienne a toujours pris un peu le dessus.
Alors, vous arrivez en France, donc en 66.
En 66, oui. Ouais.
Avec quel statut ?
Comme étudiant. Moi, je pense aussi qu'à l'époque, c'est beaucoup plus facile d'avoir des visas d'étudiants pour aller en France.
Alors, la période terrible des Khmers Rouges va arriver au Cambodge. Qu'est-ce que vous savez à distance dans cette France, qui est votre nouvelle patrie d'exil? Qu'est-ce que vous savez de ce génocide qui se met en place?
À l'époque, je ne suis pas tout de suite touché par cette génocide.
Mais la famille est restée au Cambodge, donc elle est forcément touchée.
La famille est restée au Cambodge, mais toutes les personnes de la famille qui ont pu sauver leur vie sont passées au Vietnam à ce moment-là, quoi. Les très peu qui sont morts, en fait, n'ont pas pu partir au Vietnam. Voilà.
Mais est-ce qu'on évoquait ce génocide en famille ?
En famille, on ne parle jamais de ce génocide à ce moment-là, quoi. Et moi, j'ai appris par la télévision.
Ok. Tia.
Bát lòng.
Bát cha.
Nào thằng bò không được nên tia.
Cái bộ tu sát nó ngại.
Vous avez vécu Narak et Okozal à Phnom Penh et à Saïgon. Là, on était dans une rue de Phnom Penh. Est-ce que vous y avez vécu dans ces deux villes avec le même sentiment d'appartenance ?
Non, pas du tout. Parce que quand j'ai vécu au Vietnam, je pense que j'étais trop petit, en fait. Et je ne sais même pas combien de temps je suis resté au Vietnam. En fait.
Alors, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Phnom Penh ?
Phnom Penh, justement, ça m'évoque, en fait, mes nuits. Juste, ça se passe la nuit, en fait. Ça m'évoque ce son de deux morceaux de bois qui se croisent.
C'est un jeu d'enfant ?
Non, c'est pas un jeu d'enfant, justement. C'est le marchand, en fait, de soupe. Pour prévenir les uns et les autres que l'arrivée de ce marchand ambulant de soupe, on met en contact deux bouts de bois. Et on entend ce son si pur, mêlé avec le son des voitures, mêlé avec le son aussi des grillons, quoi. Donc ça m'évoque vraiment minuit au Cambodge.
On évoquait au début de cet ensol majeur le film d'Elia Kazan, America, America, que votre mère n'a probablement pas vu, mais elle vous a donné ce fameux conseil d'embrasser la terre cambodgienne lors de votre retour. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, personnellement, l'envie de faire un jour du cinéma ?
Je pense que ça remonte assez loin. Déjà au Cambodge, on ne passait que des films des peuplements, en fait. Toujours des histoires de la mythologie, avec des arcunes, des marxistes, des hommes très très forts, et avec beaucoup de trucages, des trucages très bon marché, quoi. Donc, aussi dans le bruit que dans le visuel, quoi. Oui.
Donc très tôt, vous avez voulu sauver le monde comme Hercule.
Voilà. Parce qu'à ce moment-là, je reconnais tout de suite dans ces films-là qui est le méchant et qui est le bon, en fait. Je voudrais faire partie toujours des bons, bien sûr.
C'est étudié pour.
Ouais.
Alors, on va s'arrêter dans votre filmographie sur 2005, peut-être même 2004, année où vous êtes directeur de la photographie, sur le film de Fleur Albert, un film qui s'intitule « Le silence des rizières ». C'est un doc qui revient donc sur la guerre d'Indochine et ça se déroule entre témoignages des survivants, de ceux qui ont lutté contre le colonialisme et propagande française.
Par suite de l'incapacité des chefs du Viet Minh à gérer les affaires publiques, s'est développée dans le pays une atmosphère de révolution permanente. Encadrée par des officiers japonais déserteurs, des bandes de pillards armés terrorisent la population. Celle-ci n'attend que le retour à l'ordre pour reprendre le travail dans les plantations abandonnées. À Saigon, la population s'est portée dans un magnifique élan d'enthousiasme sur le port, acclamant les soldats accourus pour la sauvegarder dans sa vie et ses biens. Dans l'accueil triomphal que reçoit le héros du Tchad, malgré la pluie torrentielle, on devine tout l'espoir que la foule met en la volonté du général Leclerc pour rétablir l'ordre et la sécurité. La France vient reprendre et améliorer auprès de vous, pour vous, l'œuvre commencée il y a 80 ans, accroître votre bien-être, augmenter vos routes, créer de nouveaux hôpitaux et de nouvelles écoles.
Le régime colonialiste français au Vietnam nous a trahis. Nous a trahis et effrontément, il faut le dire. Car ils ont dit qu'ils sont venus ici pour nous civiliser. Ils devraient nous protéger. Car c'est un régime, on appelle ça le protectorat français. Mais il ne nous a pas protégés. Ils ont levé haut les mains comme ça devant les fascistes japonais. Tout ça nous a déchus et on a compris qu'il faut faire quelque chose nous-mêmes.
Toujours sur RFI pour en sol majeur, donc le cinéma, Narake Okozal, ça sert à sauver le monde, hein, comme on se le disait tout à l'heure, mais ça c'est une boutade. Mais est-ce que ça ne sert pas d'abord à sauver la mémoire ?
Le cinéma ne sert pas simplement à sauver la mémoire, en fait. Si on évoque la mémoire dans le cinéma, on doit évoquer aussi la résistance suite à la connaissance de l'histoire. Quoi.
Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce documentaire, Le silence des rizières, dont on entendait un extrait ?
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un film très important dans mon parcours. Et c'est surtout l'histoire d'une femme qui revient au pays.
Mai. Mère vietnamienne, père français.
Et les deux parents se sont rencontrés au moment de la guerre indochinoise, la guerre française indochinoise. Et je ne sais pas si je me rappelle de son prénom, je crois que c'est Gérard, est parti, envoyé par le parti communiste là-bas pour aider les Vietmines à gagner cette guerre-là. Et il a rencontré sa femme, la mère de Mai. Elle est une artiste qui faisait partie d'une troupe de théâtre qui sillonne tout le Vietnam du Nord pour donner la morale aux combattants Vietcong et Vietmin.
Donc en fait, dans ce documentaire, on a un peu le pire et le meilleur de l'idéal français. C'est-à-dire que d'un côté, on a effectivement la France, la propagande, là, nous le laissait bien entendre, qui trahit ses idéaux d'égalité en combattant les Vietnamiens qui souhaitent leur indépendance. Puis de l'autre, on a ces communistes français qui rejoignent la lutte contre le colonialisme aux côtés des Vietnamiens. Donc cette guerre d'Indochine, ça vous permet, vous, de la réfléchir, Nara ? Comment vous la percevez en tant que telle et dans votre histoire personnelle ?
Moi, je pense que je me rencontre de la politique de la France avec l'histoire du Vietnam et avec l'histoire du Cambodge que beaucoup plus tard, en fait. Quand je suis arrivé en France, donc je fais mes études, tout ça, je fais des études de cinéma, je me sentais français, en fait, tout simplement.
Malgré l'histoire.
Mais c'est après que j'ai appris l'histoire, c'est après que j'ai pu voir d'où je viens, qui je suis, avec quelle histoire je trimballe.
Et alors, est-ce que ça a changé votre sentiment d'appartenance à la France ?
C'est sûr que mon regard par rapport au monde qui se passe en France change complètement. C'est-à-dire que je voyais plus, en fait, pourquoi des propos des uns et des autres me reviennent et changent ma vision des choses, en fait. Donc, je pense qu'il y a toujours des doubles langages, hein, des doubles visions des choses. Hein. Et quand on vous parle, c'est jamais neutre. Voilà.
Donc, vous diriez que c'est... parce que là, vous êtes directeur de la photographie sur un film qui relate un pan de l'histoire de l'Indochine. Est-ce que vous diriez que c'est chez vous un mouvement naturel ou volontaire que de vous tourner vers des films qui sont en lien avec l'Asie ?
À un certain moment, en fait, c'est devenu une force qui m'entraîne à faire connaître les histoires de là-bas.
Nous avions 10 ans à peine, tout rouges étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, mais ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân sang, chơi đi theo đi trốn lang sang. Bang bang, anh bắn nghe em. Bang bang, em ngã trên sân. Bang bang, tiếng súng khi xưa. Bang bang, ta sẽ không quên bao giờ. Chơi bắt nhiều hơn. Bang bang, anh thích lăng xăng. Bang bang, em cũng theo anh. Bang bang, tiếng súng khi xưa. Bang bang, ta sẽ không quên bao giờ.
Alors ça, c'est un pur produit de l'Indochine où je ne m'y connais pas. C'est toujours sur RFU pour un sol majeur, Nara Keokosal. Vous nous présentez cette chanson que moi j'ai eue en oreille quand j'étais petite, mais version Sheila.
Et vous connaissez pas la version de Sinatra ? C'est Sinatra, c'est Nancy.
Ah Nancy Sinatra, vous m'avez fait peur, oui.
Ah c'est Sinatra, hein, c'est ça. La non, première version en fait.
Ah la première version, j'ai affaire à un connaisseur.
Et après c'est Sheila, après c'est venu en Vietnam, après au Cambodge. Là c'est une chanson que j'adore en fait. Et par la suite...
Donc par Tan Lan ?
Par Tan Lan, oui, c'est ça.
Qui est-elle ?
C'est une chanteuse de culture franco-vietnamienne et elle a toujours arrivé à mélanger la chanson française et la chanson vietnamienne.
Et vous aimez bien ce mélange ?
Et j'aime beaucoup ce mélange-là.
C'est nostalgique ?
C'est nostalgique parce que je suis autant français que vietnamien que cambodgien, quoi. Donc c'est aussi tout ça mélangé.
Entre un pays, le Cambodge, et un de ses enfants, Nara Keokosal, c'est l'histoire d'une séparation, parce que l'histoire, et de retrouvailles, parce que le cinéma.
C'est un endroit avec beaucoup de lumière, et prépare pour tourner un film la nuit.
C'est rare, Pompeng, beaucoup de lumière la nuit.
C'est à cause de l'argent.
Depuis quand vous n'êtes pas revenu ?
Depuis longtemps, très longtemps.
Avant ou après 75 Vous ne voulez pas me le dire?
Ça ne change rien.
Si les dates sont importantes, c'est par là. Il y a de la lumière.
M comme mythe du retour.
C'est quoi cette fumée?
L'automne.
Avec un extrait de votre film « Au pays des sentinelles éternelles » qui fait partie de la troisième édition de « Si loin, si proche », festival des cinémas du Cambodge, Laos et Vietnam qui se tient à la ferme du Buisson, c'est au sud de Paris, jusqu'au 28 janvier. Alors avant de nous raconter le sujet de ce film, Nara, un petit mot de cette scène d'ouverture. On vient d'entendre, qu'est-ce qui se passe à l'image ?
J'ai vraiment beaucoup de mal au départ de faire démarrer ce film-là. Donc l'idée est venue, c'est que de fictionner ce document, donc c'est un documentaire en fait, et on voulait fictionner. Donc c'est dans un taxi, c'est le dialogue entre le conducteur de taxi et moi-même, et c'est totalement écrit.
Je l'entends.
Oui, oui voilà. Voilà.
Est-ce que ce mot, on a employé dans notre abécédaire l'expression « mythe du retour », est-ce que ce mot de « retour » est valable dans votre cas ?
Ce mot est valable, mais c'est un retour quand même habité avec des fantômes, en fait. Quand on m'a commandité ce film, dont c'est Bertrand Tavernier, il voulait qu'on fasse un portrait de lui dans un pays où il est en train de tourner. Donc c'est la première fois que je reviens au Cambodge.
Alors que vous l'aviez quitté à l'âge de 8 ans. Hein.
Oui, et je n'ai jamais voulu revenir en touriste, donc je voulais revenir en travaillant, en fait. Est-ce que ce travail aussi me sert d'écran qui me protège? Moi, je pense que c'est le cas. Quand je suis revenu au Cambodge pour tourner ce film, les premiers jours, en fait, je reste avec Bertrand Tavernier et sur le tournage de son film « Olilola ». Ensuite, je commence à me détacher de Bertrand Tavernier et de son film. Déjà, la première chose que j'ai fait, j'ai essayé de rechercher la maison familiale à Phnom Penh. Je vois très, très, très bien comment c'est, parce que c'est une maison qui a été construite par mon père, qui était entrepreneur de construction.
Vous l'avez retrouvé?
Non, justement, j'ai cherché, cherché. La rue n'existait plus, ni la maison. Ensuite, j'ai demandé au cadastre ce que j'ai découvert. Maintenant, vous savez ce que c'est? À la place de la maison?
Dites-moi.
C'est l'Alliance française avec l'Institut français.
C'est un signe?
C'est un signe, complètement.
Alors, vous allez nous raconter tout ça, mais il faut dire un petit mot quand même de ce titre un peu énigmatique, mais qui est assez poétique, de ce film « Au pays des sentinelles éternelles ». En fait, ça cache un terrible sens.
À l'époque, pour les Cambodgiens, les sentinelles éternelles, c'est les bombes antipersonnelles, en fait, qui guettent.
Aux Français, on dit « bon voyage », ça veut dire presque « goodbye », et les autres, on leur dit « see you again », c'est-à-dire « on espère que vous allez revenir ». C'est quand même formidable. Je trouve que c'est magnifique. Thank you, see you again. Ça, c'est pour les Anglais. Et les Français, c'est bon voyage. C'est-à-dire un peu bon débarras, quoi. Bon voyage. Voilà. Hein? Voilà. La France et les pays anglophones.
La voix du réalisateur Bertrand Tavernier, à qui rien n'échappe, qui est donc venu tourner en 2004 son film Olilola, qui est une histoire d'adoption avec un couple interprété par Isabelle Carré et Jacques Gamblin. Ils viennent adopter un petit enfant au Cambodge. Mais là, cette réflexion que fait Bertrand Tavernier, elle est intéressante. Quelle image les Français ont dans un pays comme le Cambodge, Nara?
Je ne sais pas trop à ce moment-là.
Parce que vous êtes trop français pour le savoir.
Oui, voilà. Mais ça a choqué Bertrand Tavernier qu'à ce moment-là, que les mots dans les pays étrangers, les mots français, ne sont pas très accueillants. Et là, dans l'histoire, je pense que c'est la première journée de tournage dont on part ensemble. Parce qu'à ce moment-là, après sa nuit, il a toutes les réflexions pour construire sa journée.
Alors en filmant le making-of, parce qu'en fait c'est ça qu'il vous demande de son film Olilola, votre caméra à vous, Nara Keokosal, elle va commencer à glisser vers un autre réel. Par exemple, lorsque le roi lui-même, le vrai roi du Cambodge, le roi Norodom Sihanouk, en costard, presque en queue de pie, hein, se met à chanter au milieu d'un orchestre.
La nostalgie.
C'est à Capri que je l'ai. Je fus charmé encore plus que surpris. De mille fleurs, elle était entourée au milieu d'un jardin de capri.
Et puis votre caméra s'attarde à un moment donné sur les murs décrépits de la tristement célèbre prison S21.
Réponds conformément à ma question que je t'ai posée. N'essaie pas de détourner la mienne. N'essaie pas de t'échapper en prenant des prétextes selon tes idées hypocrites. Il est absolument interdit de me contester. Ne fais pas l'imbécile, car t'es un homme qui s'oppose à la révolution. Réponds immédiatement à ma question sans prendre le temps de réfléchir. Ne me parle pas de tes petits incidents commis à l'encontre de la bienséance. Ne parle pas non plus de l'essence de la révolution. Pendant la bastonnade ou l'électrochoc, il est interdit de crier fort.
Et puis enfin, votre caméra se rapproche d'un des comédiens du film qui n'est autre que Ritipan, survivant du génocide Khmer Rouge et qui se souvient à votre micro de sa vie d'enfant pendant le génocide.
On a attendu 6-7 jours sous le soleil comme ça, puis il y a les gens qui crevaient comme ça, parce qu'il y a soif. Puis le train arrivait. Ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec les Juifs. Quoi. Enfin, pas aussi. Pas tout de suite dans les camps exterminés, tout de suite. Quoi. Mais bon, c'est des wagons plombés. Quoi. les wagons partaient, on était dedans, les wagons des animaux, tu vois, pareil, quoi, des trucs, pas bon, des sièges, hein, dedans, voilà. Et puis on arrive à Battambang en pleine nuit, toujours pleine nuit, je sais pas pourquoi. Il s'est arrangé pour qu'on arrive toujours en pleine nuit. Puis on est mis dans une charrette, puis on se retrouve dans un endroit nulle part. Il n'y avait rien. Il fallait vivre, construire une petite cabane, tout ça, tu vois. Puis au bout de 3, 4, 5 semaines, toute la cellule familiale a éclaté. Le père, l'enfant, les jeunes et les jeunes mobiles, etc. Tout éclaté. Et c'est difficile, tu vois, quand on me dit pourquoi vous révoltez pas.
Donc à travers le making-of du film Oliola que vous a demandé Bertrand Tavernier, Nara Keokosal, en fait c'est un autre film qui apparaît petit à petit, un autre film qui n'était pas prévu.
Non, pas du tout. En fait, normalement je devais faire le portrait de Bertrand Tavernier travaillant au Cambodge et son rapport par rapport aux Cambodgiens. Déjà, la première partie du film, on racontait l'histoire de ce tournage au Cambodge avec Bertrand Tavernier.
Oui, il y a des scènes de tournage.
Il y a des scènes de tournage. Mais aussi, j'ai commencé à introduire en fait, l'implication des techniciens cambodgiens qui commencent à apprendre les métiers du cinéma. Quoi. Ensuite, ma vision est partie vers autre chose. Hein, parce que quand même, dans le film de Bertrand Tavernier, il y a des séquences où on évoque un peu l'histoire des Khmers Rouges. Hein. Donc je voulais rencontrer des gens qui me parlent un peu de cette histoire aussi en parallèle avec l'histoire que racontait Bertrand Tavernier dans son film Oliola. Et en même temps, mon histoire a pris le dessus. Moi, j'ai sorti dans les rues du Cambodge au bout d'une semaine, 10 jours. C'est quand même pas normal, en fait. Parce que moi, je pense que j'ai peur, quoi. Et la nuit, je rêvais des fantômes. Il y a des fantômes qui dansent autour de moi, qui m'empêchent de dormir. Et aussi, je pense que je recule. Je n'ose pas tout de suite affronter, raconter les histoires des Khmers Rouges.
Et on dit que les Khmers Rouges n'ont pas eu droit, pour certains, à des sépultures et que donc leurs âmes sont toujours errantes.
Vous savez, dans les croyances khmères, au bout d'un certain temps, on met un linceul blanc sur le corps et quand on commence à l'enlever, ça veut dire qu'on peut permettre au corps de partir ailleurs et de se transformer. Et c'est un moment très important pour les Cambodgiens, durant l'enterrement du défunt.
Mais alors qu'est-ce que vous ressentez finalement, malgré cette peur, par rapport à ce génocide sur lequel on ne peut pas poser de mots? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous retrouvez en face de ces traces du génocide? Qu'est-ce que vous ressentez en face du roi Norodom Sihanouk, qui a vécu cette histoire de génocide? Qu'est-ce que vous ressentez devant les murs de la prison S21, dont vous dites quelques-uns des règlements?
Je pense qu'à tous les endroits où les traces sont restées très très présentes, à chaque fois j'ai les larmes aux yeux en fait. Je pense que la douleur et les souvenirs prennent le dessus par rapport à ce que je peux vivre au même moment dans la réalité, quoi, des choses.
Alors le procès de certains dirigeants Khmer Rouge a eu lieu, il y a eu un travail colossal de mémoire qui a été entrepris autour du génocide par Ritipan, hein, qui fait partie de votre film. Ritipan qui a filmé notamment Douk, qui a dirigé cette fameuse cellule S21. Aujourd'hui, Nara, vous êtes directeur de la photographie. Est-ce que pour vous, ce lien à la mémoire passe plus par les images que par les récits eux-mêmes?
Avant, quand j'étais jeune et que jeune de directeur photo, je pense que l'image passe en premier. Mais maintenant, avec le recul, l'image prend moins d'importance et je laisse beaucoup plus place au son, dont aux histoires.
Vous avez tenté de comprendre pourquoi les Khmers Rouges ont voulu détruire le peuple khmer?
Est-ce que quelqu'un dans le monde peut comprendre ce choix de
détruire? Non, mais bien sûr. Mais vous, parce que vous restez avec cette question sur les bras. Vous avez des fantômes en vous. Vous parlez
de
fantômes.
Non,
hein.
Oui, mais c'est des fantômes comme beaucoup de Cambodgiens ont des fantômes en eux, quoi. En fait, ces fantômes-là sont des fantômes qui nous protègent, quoi. Les Cambodgiens accompagnent beaucoup les fantômes. Hein. Et on donne une vie à part aux fantômes.
Hein. Pourquoi vous avez choisi, vous pensez, de faire de la photographie?
Parce que je pense que j'ai pas osé devenir réalisateur, en fait. Hein.
Ah oui?
Moi, je pense au départ, c'est beaucoup plus facile d'aller dans une école de technicien et de faire du cinéma par la technique.
Et voilà. Vous pensez que le cinéma, finalement, vous a permis de vous rapprocher de ce Cambodge, de ce pays si éloigné?
Oui, bien sûr, le cinéma me permet, parce que ça me permet déjà de rencontrer le roi Sihanouk.
Et alors, et... Bah, ça, on en reparlera tout à l'heure du roi
ouais,
Sihanouk.
D'accord. Et surtout de Riti, quoi, qui m'a beaucoup accompagné quand même, parce qu'on a quand même des soirées où on parlait beaucoup de soi, du Cambodge et du cinéma et de la mise en scène. Je ne sais pas si... Moi, je suis devenu cinéaste parce que j'ai un roi cinéaste dans mon pays. Je ne sais pas, je me pose la question, quoi, ouais. Tout simplement.
Ouais. La question du film, vous la posez vous-même à la fin. Qu'est-ce que vous avez vu du Cambodge?
Je me mets à la place de l'éléphant, en fait, qui rabat ses grandes oreilles, qui s'essuie les yeux, comme ça, et qui se demande aussi ce que les Cambodgiens ont vu de cette période noire de leur vie. Est-ce que je raconte qu'une infime histoire de cette période, et beaucoup de choses encore restent à raconter, à faire découvrir, à informer les uns les autres.
Alors vous êtes programmé, Nara Kéokozol, dans ce festival Si loin, si proche, en tant que réalisateur, mais c'est au co-directeur de ce festival que je vais m'adresser. Je vous ai demandé si vous aviez, alors la question est un peu blasphème, enfin sacrilège plutôt, c'est votre coup de cœur dans cette programmation. Et vous me l'avez donné, il s'agit de The Brilliant Darkness d'Aaron Toronto. C'est un réalisateur américain marié à une actrice vietnamienne. Il vit à Saïgon et ça s'entend.
Là ông nữa đúng không?
Là sao?
Đi ỉa không bao giờ biết giỏi hết á. Người gì đâu, ở nhà cũng vậy, ra tới đây cũng vậy.
Bà bắt cười quá, ở đây có biết bao nhiêu người, sao đổ thừa tôi?
Không lẽ bây giờ tôi đổ thừa Tiểu Bảo? Tiểu Bảo làm gì mà ngồi vừa cái bồn này, vừa tới ướm luôn à.
Bây giờ tôi đi ra ngoài tôi làm chuyện lớn, tôi tiếp biết bao nhiêu là khách, bà giỏi giùm tôi bà chết hả?
Làm chuyện lớn là chuyện gì? Nhậu nhẹt mà giỏi thôi.
Rồi sao, có ý kiến gì không?
Có, cầm gì đó.
Chân gà ngâm xả tắc.
Mắc gì cầm chân gà ngâm xả tắc?
Nghe đồn mà đói bụng. Ăn không?
Ăn thì ăn. Đưa đây.
Mở thì mở, sợ bà hả? Ngon không?
Ngon.
Évidemment, c'est beaucoup plus drôle avec l'image. C'est une scène d'engueulade hein, entre un couple qui se termine en scène d'amour. Nara Kéokozol pour En Sol Majeur, évidemment, vous allez nous dire en quoi, pourquoi ce The Brilliant Darkness est votre coup de cœur dans ce festival si loin, si proche.
J'aime beaucoup ce film parce que ça raconte vraiment bien l'identité vietnamienne, en fait, d'une famille vietnamienne. Vous voyez dans le film, en fait, tout le monde s'engueule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au Vietnam, ça crée beaucoup. Et personne n'est d'accord avec eux, personne, quoi. Ça fait partie de leur identité, de leur culture.
Ouais.
Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est parce que c'est vu par un réalisateur d'origine américain qui a vécu au Vietnam et qui s'est marié au Vietnam. Et après le film, en fait... Dans les journaux, les critiques racontent que le réalisateur n'a pas compris le Vietnam. Pour moi, c'est le contraire, en fait.
C'est les critiques qui n'ont pas compris le réalisateur.
Voilà, c'est les critiques qui n'ont pas compris le réalisateur, ni le film. Moi, je pense qu'il a vraiment trouvé le temps pour raconter cette histoire familiale au sein de la société vietnamienne.
Alors, vous qui êtes un amoureux du cinéma de Ozu, qui avait l'art de dire des choses douloureuses avec un très très grand sourire. Est-ce que vous diriez que The Brilliant Darkness est un film un peu emblématique d'un certain cinéma asiatique, vous diriez? Est-ce qu'il y a un ADN particulier?
L'ADN, c'est qu'on parle beaucoup et qu'on crie beaucoup. Ça fait partie de l'ADN aussi. Et aussi...
Que ce soit au Laos, au Cambodge,
non,
ou au Vietnam?
Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Chacun, chaque pays ont une culture complètement différente. On a aussi des histoires différentes.
Donc il n'y a pas d'ADN du cinéma asiatique. On ne peut pas l'enfermer, c'est impropre
non,
en fait de l'enfermer là-dedans.
Je pense que le seul ADN qu'on peut trouver dans les trois cinémas, c'est l'histoire des fantômes. Parce que les fantômes, c'est un être vivant parmi nous.
C'est
Savez-vous planter des choux?
Savez-vous planter des choux?
À la mode de chez nous?
Alors Nara, est-ce que vous connaissez cette comptine? Savez-vous planter des choux? Qui remonte au Moyen-Âge. J'ai regardé ça, ça remonte au moment où le chou était devenu un peu la base de la cuisine paysanne. Vous connaissez cette chanson, cette
comptine? Bien sûr, je connais très bien cette chanson, oui. Je pense que j'ai même chanté à mes filles.
Donc vous avez adopté beaucoup de choses, des codes français?
Beaucoup, comme au Vietnam et au Cambodge aussi, on a aussi appris des codes français. Les contes français, ainsi de suite, même l'histoire de France.
Oui, hein. Mais vous avez quand même vécu dans un bain vietnamien, à prédominance de culture vietnamienne.
Oui, mais moi, je pense qu'il faut connaître toutes les cultures. Il faut connaître la culture du pays où on vit. Quoi.
Après, il y a des résistances.
Oui, il y a toujours des résistants, en fait. Et on arrive toujours à comparer. Est-ce que c'est mieux au Vietnam, c'est mieux au Cambodge, c'est mieux en France? Malgré nous, on compare.
En tout cas, plus sérieusement, après votre traversée, on va dire, à la fois de l'histoire, des territoires et puis des identités, je m'interrogeais sur votre lien à la France, mais vous nous avez déjà confié des choses. Mais peut-être que ce lien se résume lorsqu'Ariane Nouchkine, dans cette grande metteuse en scène française, monte une pièce sur le roi du Cambodge, Histoire inachevée de Norodom Sihanouk, extrait en Khmer.
លោកពុកមានចាំទេយើងបានយកព្រមក៏លើកលការថានិកាបោះឆ្នោតជាស្រីមុនលោកពុកសកុតមិនយូរទៀតទេពួកអស់នោះនឹងចូលដល់ខ្លោងជាវាំងហើយនឹងកាត់យកបល្ល័ងរបស់កូននេះមួយមកអត់មានកាបោះឆ្នោតព្រោះអ្វីមកជំនួសវិញកូនបានកិត្តិរុចហើយកូនមានកម្រងញ៉ាងអត់ល្អអត់ហើយសម្ងាត់មួយលោកពុកលឺទេពុកបានតែស្នប់តែប៉ុណ្ណោះលោកកពុកសូមអនុញ្ញាតឲ្យកូនដាក់រីចុះដាក់ទៅ
Alors, je ne sais pas que vous allez pouvoir nous traduire cet extrait de l'histoire inachevée de Norodom Sihanouk, mais je crois
Je peux évoquer quand même ce qui se trame dans cette séquence. Là, le roi, à ce moment-là, voulait laisser son trône pour devenir un chef d'État et se faire élire par le peuple et d'être beaucoup plus près du peuple qu'il était déjà étant roi.
Oh, vous avez bien révisé votre Khmer, alors.
J'ai bien appris ma leçon.
Donc ça, c'est une pièce écrite par Hélène Sixou et montée par le Théâtre du Soleil. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir que le théâtre français s'emparait de l'histoire du roi du Cambodge, de Norodom Sihanouk?
Je pense que c'est plus Hélène Sixou qu'Ariane qui a fait le choix de cette époque, de ce roi-là. Est-ce que c'est un personnage qui est fasciné par le théâtre ou les cinéastes?
Il est fascinant. Enfin, il y a un extrait dans votre film, on le voit chanter dans un orchestre une vieille chanson française. Il le fait dans un costume de façon très 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 sérieuse. Et puis on a entendu beaucoup d'interviews. Ariane Nouchkine le décrivait comme désopilant, attachant et très ambigu.
Je pense que c'est un personnage très ambigu, en fait. Il essaye de faire le mieux pour le peuple cambodgien, même en se contredisant et en faisant des choix politiques qui ne sont pas forcément en faveur, dont je pense que ça peut fasciner, en fait, soit un cinéaste ou un metteur en scène de théâtre.
Oui, mais encore une fois, c'est tombé sur le roi du Cambodge. Vous êtes d'origine, entre autres, cambodgienne. Vous êtes français aujourd'hui d'adoption. De voir se réunir en une pièce de théâtre ces deux entités, c'est quelque chose de particulier, j'imagine.
Moi, je trouve que c'est parfait de prendre conscience, en fait, qu'on peut critiquer notre culture, qu'on peut critiquer la culture de l'autre, de nos hommes politiques, que ce soit au Cambodge ou en France. Quoi. Mmh. Donc je trouve que c'est très très bien qu'il faut avoir ce regard en fait différent et cette acceptation des critiques des uns et des autres.
Certains disent que Sihanouk était une sorte de fiction. Tout à l'heure, il me semble que vous avez dit que vous lui deviez peut-être votre amour du cinéma. Parce qu'il a réalisé lui-même des films.
Oui, il a réalisé, je pense, entre 15 et 20 films, en fait, qui ne sont pas toujours brillants. C'est surtout autour des histoires d'amour et l'amour de son pays. En fait, il montre magnifiquement le Cambodge de l'époque.
Est-ce que c'est une sorte de modèle pour vous?
C'est pas tout à fait le modèle, en fait. Je préfère le regard d'un Ozu ou d'un Bertrand Tavernier que le regard du cinéaste Norodom Sihanouk.
Sans commentaire. Est-ce qu'on se quitterait du côté de Saïgon avec une certaine Georges K? Vous nous la présentez, c'est qui ?
C'est une chanteuse métissée. Je ne sais plus si elle est totalement eurasienne ou elle a très peu de sang. Je pense que c'est le grand-père ou la grand-mère qui est vietnamienne. Et qui a découvert dans le tard plutôt ses origines, qui veut revenir un peu plus près de ses origines. Je pense qu'elle a découvert Saigon à ce moment-là, mais c'est un Saigon qui s'appelle Ho Chi Minh Ville.
J'habite dans une M, petite ruelle de Binh Thanh. 7h du mat, ma voisine allume son réchaud au butane. Les femmes assises à même le sol découpent des légumes. Les hommes s'interpellent, déambulent, rient et fument. À peine sortie de ma rue, c'est l'explosion de la ville, le défilé des scooters qui forment une seule et même file. Ça crie, ça se bouscule, rien ne se tait et tout bouge, à l'exception des affiches de propagande jaune et rouge. Les vendeurs ambulants règnent en maître sur la chaussée, on passe commande depuis sa bécane et on l'attrape à la volée. On arbore des t-shirts aux effigies évocatrices, on porte du Donald Trump ou du Dora l'exploratrice. Saigon vit dans le vacarme des deux roues, des moteurs débridés, des clignotants, des klaxons fous. Hommes et femmes de tout âge pilotent les mêmes bolides. Les vieux conduisent lentement et les jeunes font les caïdes. Des sièges minuscules s'immiscent sur les trottoirs défoncés ou des ongles abattent des cartes dans les vapeurs de leur café. La sueur dégringole dans leurs omoplates amaigries. Ils me rappellent tous mon grand-père, celui pour qui j'écris. Soleil, moi j'aime monter en haut d'un pont, regarder le trafic en contrebas filer comme un banc de poissons incandescent. La nuit se couche sur Ho Chi Minh qui s'enfuit vers la banlieue pour dîner avec sa famille. Ho Chi Minh ne dort pas, non, elle somnole sous les réverbères, gardée par les taxis, les mendiants et les grands-mères. Le monstre s'endort et ronfle doucement et Ho Chi Minh ressemble alors au Saigon d'avant. Sauf à Bouvienne, là il fait jour au milieu de la nuit, les couches tard s'entassent sur les terrasses à bas prix. Les néons aveuglants se mêlent aux cris des serveurs, des enfants vendent des mouchoirs et des femmes leur faveur.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Naraké Okozal, la bande son de l'invité en trois claps moteurs. Premier clap. Deuxième clap.
Le régime colonialiste français au Vietnam nous a trahis. Nous a trahis. Et effrontément, il faut le dire.
Troisième clap. Le tout à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio, mitonnée comme chaque semaine par Caroline Filliet, Théo Raison, Yasmine Chouaki. Demain, on part en Inde au bras de Kumaran Vallavan. Dans un instant, votre journal suivi de tous les cinémas du monde.